Bonsoir chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Présence et Liberté, l'émission de Sam Brown et Jean Moreau. Jean Moreau et Jean-Claude Jacquet accueillent ce soir Madame Brigitte Lemaine, sociologue et réalisatrice, qui va présenter l'histoire de Franck et David. Merci à notre technicien à la cabine du son. Jean Moreau, à vous l'antenne.
Chers auditeurs, bonsoir. Bonsoir Madame Brigitte Lemaine, c'est la seconde fois que vous venez pour notre bonheur et nous allons évoquer cette histoire de Franck et David dont vous parlez dans votre documentaire. Auparavant, pour donner le la en quelque sorte, nous allons écouter un poème de Prévert.
Le cancre. Il dit non avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Je vous remercie. Le cancre, c'est aussi l'histoire de Franck et David. Dans le poème de Prévert, combien c'est difficile d'apprendre aux gens à dire non. Je fus professeur, je me rappelle, j'apprenais à mes élèves à dire non. Dites-moi non, monsieur. Ils étaient étonnés qu'on leur apprenât. Madame Brigitte Lemaine, l'histoire de Franck et David, c'est d'abord un film, un documentaire, c'est une longue histoire. Mais auparavant, vous allez nous dire, nous rappeler qui vous êtes. Deuxièmement, comment peut-on voir ce film? Et puis ensuite, un peu l'histoire elle-même de cette magnifique et émouvante aventure.
Bonsoir, donc je suis sociologue, je suis réalisatrice, j'ai fait une quinzaine de documentaires autour des questions du handicap et des maltraitances, et j'ai commencé l'histoire de Franck et David en 1990, et je l'ai terminée en 1998, et il a été diffusé sur Planète en 2001, donc c'est une très longue histoire, et une histoire sur la question de l'exclusion que j'ai voulu traiter en suivant deux jeunes qui s'étaient retrouvés dans un centre pour handicapés mentaux pour échec scolaire. Donc ce film, on peut l'acquérir en DVD au Centre National Audiovisuel en Santé Mentale, c'est-à-dire sur le site du cnasm.prd.fr.
Bien. Je vous remercie. Il importe aussi de dire à cette antenne que vous avez travaillé avec Armand Gatti, Chant d'amour des alphabets d'Auschwitz. Et témoin sourd, témoin silencieux, précisément. Et aussi, dernièrement, c'était le thème de notre entretien, sur la torture et la face sombre de l'humanité. Votre film commence par l'image d'une gare et d'un train. J'ai envie de dire voyage et de rappeler ces voyages d'un enfant autiste, d'un enfant rwandais ou d'un enfant qui réussit. C'est d'abord la séparation et puis c'est le temps des épreuves et c'est parfois mais trop rarement la réussite. Pour l'enfant rwandais, c'est également le même périple. Et puis il y a un autre voyage que l'on célèbre trop souvent aujourd'hui, qui est celui de l'enfant privilégié à qui on apprend à devenir un battant, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de battre les autres. Je crois que tout cela nous permet d'éclairer d'une certaine façon ce thème que vous abordez et qui en quelque sorte peut être vu en trois points. Exclusion familiale, exclusion scolaire, exclusion sociale. Alors parlez-nous d'abord de Franck et David.
Alors je rencontre Franck et David en 1989 dans un EMPRO, c'est-à-dire un externat médico-professionnel. Ils ont 16 et 18 ans. Et je m'aperçois dans cet établissement où je reste un an pour animer un atelier vidéo que 50% des élèves ne sont pas handicapés mentaux mais sont en échec scolaire. Et non seulement ils ne sont pas handicapés mentaux mais majoritairement issus de l'immigration. Donc Franck et David sont assez rebelles. Et au bout d'un an, ils arrivent à se sortir de cette situation et je leur demande s'ils peuvent m'expliquer leur histoire pour comprendre ce qui se passe.
Bien. Et ce qui se passe, c'est peut-être tout ce qui a trait au darwinisme social, c'est-à-dire éliminer l'autre, exclure. Franck et David, son père est camerounais. Il a travaillé d'abord sur un chantier, atteint de tuberculose, il meurt à l'hôpital, c'est cela. Oui. Et puis après, le processus classique, redoublement.
Oui, c'est-à-dire que Franck, qui a été séparé de sa famille très jeune, hein, parce que ses parents l'ont mis en nourrice, il était tout bébé, parce que sa mère travaillait la nuit et son père était sur les chantiers, et puis ils avaient un tout petit endroit pour vivre. Il est maltraité par sa nourrice. Hein. C'est une nourrice qui reçoit beaucoup d'enfants. Ils couchent par terre, ils dorment pas très bien parce qu'ils sont tous dans la même pièce. Ils sont pas très bien nourris. On les appelle même pas par leur nom. Et Franck reste là pendant 4 ans à Brou, donc chez cette nourrice dans l'Orléanais. Bon, les parents ne s'aperçoivent pas de ce qui se passe parce qu'évidemment, on leur cache tout. Et puis, quand il revient à l'âge de 4 ans dans sa famille, il va en maternelle. Bon, là, il se réadapte correctement. Bon, il y a des problèmes de racisme parce que c'est les années 70 et on n'accepte pas encore très bien les enfants métis ou les enfants africains.
Vous voulez dire, Madame Brigitte Lemaine, que le racisme a disparu dans les années 2007 ?
Non, c'est absolument pas ce que je veux dire. Mais disons que les instituteurs sont un peu plus habitués, disons actuellement, aux populations immigrées qui arrivent, africaines, etc. Donc, il souffre de cette situation de racisme, mais il rentre à l'école et à ce moment-là, son père décède. Donc, le deuil fait qu'il n'est pas en situation très correcte pour apprendre à écrire et à lire, en dehors des maltraitances qu'il a subies qui ont des conséquences quand même. Et il se retrouve dans une classe de réadaptation parce qu'il double son CP, il double son CE1. Et là, il est extrêmement maltraité par une institutrice qui les dévalorise énormément.
Qui montre... lui et un autre mauvais élève en disant « Vous êtes les deux mauvais de la classe. Mmh. » Elle les stigmatise. C'est Franck. Et David, celui qui, dans le film, parfois se tord les mains.
Oui, David, lui, a un problème. Bon, son père est parti donc, quand il était bébé. Donc, il y a une question d'abandon. Il vit avec sa mère. Sa mère est française, blanche. Lui, il est... il est le seul métis, son frère est blanc, etc. Donc il a un problème pour trouver sa place dans sa famille déjà, sa grand-mère ne l'accepte pas, etc. Mais à l'école, il est très turbulent, il ne suit pas. Et puis on dit à sa mère, il ne distingue pas sa droite de sa gauche, il faut le placer. Et sa mère qui est un peu désemparée se laisse faire, donc il est placé dans une maison d'enfants. Et dans cette maison d'enfant, il n'arrive pas... D'abord, il souffre énormément de la séparation avec sa mère, qui a été brutale. Et puis, d'autre part, il est agressé par les grands. Et de fil en aiguille, agressé sexuellement par les grands. Donc, c'est sûrement pas comme ça qu'il va arriver à surmonter ses problématiques scolaires. Et on lui dit qu'il va rester un an dans cet établissement. Finalement, il reste 9 ans.
Oui, alors... Voilà dressé le portrait des deux protagonistes. Votre film, je voudrais d'abord dire pour nos auditeurs qu'il est bouleversant par sa sensibilité, sa délicatesse et sa profondeur. Et aussi par les propos de deux intervenants, Bernard Lampert et Philippe Guton. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont ces deux personnes qui souvent commentent, expliquent ?
Alors, Bernard Lampert est philosophe de formation. Il a écrit deux livres, Des Amours, sur la question, édité au Seuil, sur la question du désamour que certains enfants ont à supporter, qui ne sont pas acceptés, qui sont un petit peu dans une position sacrificielle dans leur famille, enfants mal aimés, enfants négligés, etc. Donc il a écrit ce livre et il s'est formé à la psychologie, il a commencé à faire des formations à la protection de l'enfance. Et puis, il a écrit un deuxième livre qui s'appelle « Les violences de l'école », dans lequel il aborde les questions terribles des violences de l'école qui sont très difficiles à aborder en France. Et c'est pourquoi j'ai eu affaire à lui. Et puis, Philippe Guton, par ailleurs, est psychiatre, spécialiste de l'errance, professeur de psychopathologie à l'université d'Aix. Et
votre propos fait rebondir sur deux réflexions qui, pour l'enseignant que je suis, me sont particulièrement chères. D'abord, une leçon de grammaire. Orienter à la forme active ou s'orienter à la forme pronominale. Étymologiquement, c'est rechercher l'orient, rechercher la lumière qui est en soi. Et trop souvent, on oriente les personnes au lieu de leur apprendre à découvrir toutes les parts de promesses et de réussites que chacun, même le plus faible, possède en lui. Puis, deuxième point sur lequel votre propos m'interroge, tout métier a ses risques. Le risque du métier d'enseignant, c'est d'être inclair, c'est de croire posséder la vérité et de dire que tous ceux qui ne sont pas enseignants sont inférieurs, ne connaissent pas. Pour libérer les autres, il faut d'abord peut-être se libérer soi-même. J'aimerais quelques minutes sur ce propos que M. de Morgon, notre ami philosophe qui se trouve dans le studio, nous livre ses lumières.
Je crois que c'est un très grand problème du développement de chaque être humain, c'est de pouvoir faire l'épreuve de la construction de soi-même, c'est la construction de l'identité. Et malheureusement, étant donné qu'on procède forcément par identification, si le contexte est défavorable pour ces identifications, la construction de la personnalité va être forcément déficitaire. Et je crois que tout commence là, et après on se retrouve avec des drames, des gens qui ne peuvent plus du tout trouver leur équilibre dans la vie, exister par eux-mêmes, parce que dès le départ, on ne leur a pas permis de bonnes identifications.
Eh bien, précisément dans le film, le psychologue M. Lampert explique de l'importance d'entendre non seulement formellement, mais d'entendre réellement, et que ce devoir d'entente engage l'établissement en même temps que les intervenants de l'établissement. Pouvez-vous nous préciser comment vous avez su si bien montrer cela dans le film ?
C'est-à-dire que David a mis énormément de temps à révéler qu'il avait été victime d'abus sexuels dans cet établissement, parce que dans l'établissement, il l'avait dit, il n'avait pas été écouté, et apparemment, ça avait été dit à sa mère aussi. Et lui, il estime que sa mère ne pouvait pas faire grand-chose, que c'était à l'établissement de le défendre de ces agressions qu'il subissait, si tout le monde était au courant. Et Bernard Lampert, à juste titre, explique que quand il y a de tels agissements, il y a à se désolidariser des agresseurs et à les faire condamner, en tous les cas. C'est interdit d'agresser sexuellement les enfants en France. Il y a une loi, il faut la faire respecter. On ne peut pas être complice de tels agissements sous prétexte que c'est d'autres élèves
Ce qui me surprend toujours, c'est les enseignants, les éducateurs, toutes les personnes qui ont affaire pour s'efforcer de construire des jeunes, ne se rendent pas compte combien ils sont des chercheurs d'or. Et je pense à un mot, je crois, que dit David. Il dit qu'il est comme une étoile de mer. Il dit aussi qu'il est comme une éponge, terme ô combien symbolique et significatif. Et le psychologue qui commente parle de la connaissance de la vie quand c'est jeune. Mmh. Pour reprendre une formule d'un des fondateurs du syndicalisme en France, Fernand Pelloutier, ils ont la science de leur malheur. Il faut peut-être d'abord découvrir la science du malheur pour permettre aux personnes de se construire et d'éviter cette excitation addictive d'espace dont on parle dans le film.
Alors bon, oui, absolument. Écouter la science du malheur, c'est écouter les personnes victimes, c'est effectivement repérer la douleur, ne pas être insensible aux agressions, ne pas penser que la violence est normale.
Pour écrire sur un tableau noir le visage du bonheur.
Voilà, bien sûr. Alors moi, j'ai envie de reprendre là, parce que Franck et David, ce sont des gens qui, quelque part, s'en sortent. Hein. Donc, comme vous dites, le visage du bonheur. Ils s'en sortent parce que ils n'ont pas gardé le silence. Ils n'ont pas gardé le silence grâce à ce film, parce que je pense qu'un film, ça peut jouer une grande part dans la reconstruction de personnes, et puis parce qu'ils ont raconté leur histoire, ils m'ont raconté leur histoire. Mais je pense aussi que je reprends là un extrait d'un livre sur la résilience, livre collectif de Boris Cyrulnik, mais avec d'autres personnes qui ont participé. Je pense aussi que la résilience, qu'on met trop souvent en avant, et on risque de culpabiliser les victimes en disant vous n'êtes pas résilient, les autres sont résilients, etc. Faut être passé par les agressions, les horreurs, etc. pour comprendre que c'est pas évident d'être résilient. Mais je crois qu'à l'intérieur des personnes qui s'en sortent, quelque part, il y a 7 degrés. C'est ceux que Woolin et Woolin ont cités. Ce sont des chercheurs psychologues américains. Il faut la perspicacité. Il faut l'indépendance. Il faut l'aptitude aux relations. Il faut l'initiative. Il faut la créativité. Il faut l'humour et il faut la moralité pour se sortir. Pour tenir dans des conditions terribles. De violence avec des complicités de violence et la loi du silence, et quand même tenir son secret mais arriver à le dire et arriver à se sortir dans la vie, il faut toutes ces choses en soi.
Eh bien, ce que vous dites m'impressionne énormément. Vous me permettrez de dire que je connais telle victime aujourd'hui africaine d'un génocide dont les deux moyens de se sauver sont la religion et le sport. Et peut-être qu'avec M. de Morgon, un jour, on évoquera ce problème, qui est absolument impressionnant. Et je voudrais aussi dire que tout se passe comme si l'exclusion jouait le rôle d'une éducation à toute indifférence. À l'apparente indifférence, en tout cas, pour construire ce que Bruno Bettelheim appelait une forteresse vide. Je crois que l'un des intervenants dans votre film parle de ce que les spécialistes appellent l'affect de non-affect. Pouvez-vous nous préciser cela ?
Oui, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai fait une psychanalyse, donc j'en ai une petite idée. Enfin, l'affect de non-affect, c'est effectivement, chez ces jeunes, essayer de se protéger à un tel niveau de ressentir les choses qu'ils se mettent dans la situation de non-affect. C'est-à-dire, ils se protègent, c'est la forteresse du vide. Je ne ressens rien, je me protège au maximum pour continuer à vivre. C'est une politique de survie, en fait, l'affect de non-affect.
C'est une politique de survie. Et dans votre film, il y a aussi cette intervention extrêmement émouvante quand les études, le plaisir de la connaissance retrouvé par l'intermédiaire notamment d'adultes, en particulier, je vois à ce professeur qui est maître auxiliaire et qui est dans un fauteuil roulant, qui construit des personnes. Je dirais que mythologiquement, c'est une merveille. On pense à Héphaïstos boiteux, et qui pourtant ose être amoureux d'Aphrodite. On pense au Dogon qui tombe du ciel, le dernier boiteux, peut-être parce que pour construire une société et l'améliorer, il faut d'abord tomber et apprendre à ne pas marcher au pas. Alors, dites-nous un peu de cela, comment l'enfant arrive à se débloquer alors que l'on a bloqué la tendresse dans son enfance.
Eh bien, effectivement, Franck, grâce au conseil d'un ami d'enfance qui lui-même poursuit des études de droit, s'est remis à rêver qu'il pouvait continuer des études qu'il avait interrompues. Et il est allé donc à l'université de Sancier, qui n'est pas loin d'ici, pour passer un DAU, c'est-à-dire un diplôme d'aptitude universitaire. Et le maître de conférence dont vous parlez, qui est une personne remarquable, handicapée physique, professeur d'anglais, s'occupe donc de ces jeunes qui ont été obligés, pour des raisons familiales ou traumatiques, d'interrompre leurs études, mais qui ont encore en eux la possibilité de reprendre. Et en 2 ans, on les remet à niveau pour qu'ils puissent suivre des études universitaires plus tard.
Et alors, je voudrais évoquer l'importance de la violence symbolique. Vous me pardonnerez, y compris nos auditeurs, si j'ai déjà raconté cette anecdote. Il y a 20aine d'années, Bertrand Schwartz avait écrit un livre, un rapport sur l'intégration des jeunes de 16 à 18 ans. Je vais l'interviewer avec une élève qui allait avoir 16 ans. Et Bertrand Schwartz, tout petit bonhomme aux cheveux blancs, avec la politesse des grands esprits, lui dit « Mademoiselle, vous allez avoir 16 ans demain. « Que pensez-vous de mon rapport ?» Et l'enfant répond avec bon sens et sensibilité. Je raconte cela le lendemain dans la cantine et un collègue me dit « Nos élèves sont tellement bêtes, et ce n'est pas le terme qu'elle a employé, qu'elle a bien dû être embarrassée. » Et là on voit cette violence physique, cette violence symbolique contre laquelle s'élève totalement votre film. Alors, nous allons bientôt conclure. Vous allez nous parler aussi de cette histoire d'une amitié à la fin.
Oui, c'est-à-dire que Franck et David se rencontrent à l'EM Pro et donc ils restent en contact après le départ, après l'agression, parce que Franck se fait agresser par une bande après son éviction de l'établissement. Et donc ils restent en contact, ils se tiennent au courant. Et je pense que ça joue aussi beaucoup dans le processus de résistance psychologique, le fait d'être capable d'avoir une amitié et d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose et à qui on peut référer de ses avancées, de ses problèmes, de ses soucis. Donc Franck et David restent ensemble pour ce film, pour collaborer à ce film. Ils restent ensemble aussi en contact épisodiquement, actuellement, pour se tenir au courant.
Pour redire les choses rapidement, l'amitié dans cette cage, dans cette caserne où ils sont, permet de lutter contre le caïda, contre les caïds, contre ceux qui écrasent.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça, c'est des conclusions d'une étude de l'école de Chicago les fonctionnements dans les prisons, les établissements psychiatriques, etc. Il y a 4 niveaux. Il y a ce niveau de caïda qui écrase tout le monde, la complicité au caïda, mais quand il y a possibilité d'amitié, il y a possibilité de résistance. Et puis il y a les gens qui se laissent écraser.
Je vous remercie. Vous allez nous rappeler les références de votre film, comment le visionner. Et puis, il nous restera 15 secondes. Nous demanderons à M. de Morgan de nous faire une réflexion.
Alors, ce film donc, peut être vu, acheté en DVD au CNSM, Centre National Audiovisuel en Santé Mentale. Donc, sur le site internet de ce centre, on peut donc acquérir le DVD.
Eh bien, je vous remercie Deux mots, monsieur.
Deux mots, écoutez, ça sera très simple, c'est de dire que ce film est un film sur la singularité de l'être humain, et je crois qu'on ne fait pas assez cas de la singularité de chaque être humain.
Eh bien, chers amis, je vous remercie, chers auditeurs, c'était l'émission Présence et Liberté, une émission de Sam Brown et Jean Moreau. Bonsoir.